Jolie Trouvaille, une émission présentée par Bernadette Loison et Anne-Sophie Chaubeau, un rendez-vous mensuel consacré aux antiquités et objets de brocante. Bernadette, bonjour.
Bonjour Anne-Sophie.
Alors Bernadette, où trouver les objets de collection à notre époque ?
Alors c'est vrai qu'on peut voir un petit peu les possibilités puisque c'est une des premières émissions que nous faisons sur ce thème. Et je parlerai tout d'abord de la salle des ventes. Il y en a à Chartres, à Dreux, à Châteaudun. Alors Chartres, c'est toujours le dessus du panier. Hein. Ils ne vendent que les très belles choses pour les collectionneurs qui viennent du monde entier. Alors qu'à Châteaudun, il y a des petites choses pour les collectionneurs. Il aime beaucoup vendre, par exemple, une collection de fer à repasser ou de moulins à poivre. Ce sont des... Pour les collectionneurs, c'est vraiment bien. Il y a aussi le marché des brocanteurs, place Billard. Alors ça, c'est le quatrième dimanche de chaque mois. Et là encore, c'est une brocante dans laquelle on peut fouiller, on peut fouiner, on peut retirer d'un fond de caisse la pièce qui va enjoliver notre dimanche. Le rendez-vous des chineurs, ça, c'est place des Éparts, et c'est le deuxième dimanche de chaque mois. Bien sûr, il y a les salons d'antiquaires. Alors là, c'est une marchandise plus haut de gamme. Il y a les vide-greniers. Alors là, c'est le contraire. C'est souvent mixte. Quand on a la chance qu'il y ait à la fois des brocanteurs et des particuliers. Et je pense qu'il y a également eBay maintenant, parce qu'il faut vivre avec son temps.
La concurrence d'Internet.
Voilà. Et les enchères sur Internet, ça marche bien.
Le Bon Coin.
Le Bon Coin, oui, ça c'est bien aussi, parce qu'on sait que ce sont des gens qui habitent pas très loin, qui proposent des choses. Donc on se donne rendez-vous sur la place, et c'est comme ça qu'on acquiert de nouvelles pièces pour la collection. Et puis il y a les Compagnons du Partage.
Tout à fait.
Il faut y penser, qui sont ouverts une semaine sur deux. Alors, à qui on peut porter des choses?
Alors,
quand
ils
vraiment...
ils sont installés à l'UC, hein.
Oui, c'est ça.
Bernadette.
Quand la maison est trop pleine, on leur fait un petit don.
Voilà.
Et autrement, on va fouiller.
Ils vient nous débarrasser un petit
voilà,
peu.
Voilà, c'est ça.
Alors, on va un petit peu faire la distinction quand même entre le vide-grenier et la brocante. Le vide-grenier, ce sont des particuliers qui, on va dire, vident leurs armoires. Alors, on retrouve de plus en plus de vêtements, de vieilles chaussures usagées, de jouets d'enfants plus ou moins en bon état. Alors, le vide-grenier, Bernadette, est-ce qu'il est devenu une concurrence déloyale pour les brocanteurs ou est-ce que c'est différent comme marché ?
Non, je pense que c'est différent. C'est vrai qu'au tout début, dans les années 80, quand les vides-greniers se sont développés, on avait souvent... C'était mixte, souvent. Il y avait quelques brocanteurs, des brocanteurs qui venaient, et puis il y avait... tous les particuliers qui exposaient des choses. C'était devenu pour eux un style de vie. Le dimanche, ils déballaient, ils pique-niquaient sur place, ils retrouvaient d'autres personnes. Mais il y a eu une évolution. D'abord, les brocanteurs n'étaient pas très contents de ce système. Et à l'époque, c'est vrai que les particuliers apportaient vraiment des choses qui étaient dans leur grenier. Ça pouvait être de la vaisselle qui venait de famille, ça pouvait être effectivement des choses qu'il y avait dans les greniers. Depuis le temps, il n'y a plus rien dans les greniers, plus rien du tout. Et donc, le vide-grenier, c'est vraiment les vêtements qui sont trop petits pour les enfants. Alors, s'il y a quelque chose qui reste valable, c'est les cadeaux qui ont été faits, notamment les cadeaux de mariage, qui n'ont pas plu aux personnes et qu'on retrouve encore dans leur boîte et tout neuf. Dans les vides-greniers. En plus, ils ne vendent pas ça cher du tout, ça ne leur a pas plu, ils dégagent. Donc là, il y a des affaires à faire. Mais autrement, les vides-greniers sont devenus un petit peu tristes, je dois dire.
Alors, quand on va sur une brocante, est-ce que Bernadette, qu'il faut arriver très tôt le matin, dès 6 heures, parfois on voit des gens qui viennent très tôt dès le matin?
Alors ça, oui, effectivement, c'est ce qu'on dit. On dit que les brocanteurs viennent avec une lampe de poche alors que ce n'est pas encore installé. Alors, c'est peut-être vrai, mais moi, je n'y crois pas tout à fait parce que de toute façon, il y a une question de hasard. Quand on est collectionneur, quand on cherche quelque chose, on rencontre le bon objet de son dimanche toujours par hasard. Dans la mesure où si quelque chose est parti, le brocanteur automatiquement retourne dans le coffre de sa voiture et remet autre chose. Donc il y a une part de hasard, c'est un jeu. Et je ne crois pas que ça donne vraiment grand-chose pour nous de se lever à 6 heures du matin. Bon, je trouve que les brocanteurs font un petit peu la grasse matinée maintenant. Et puis, je vous dis, il y a une question de chance. Les objets rentrent et sortent. Et de toute façon, contre ça, on ne peut rien.
D'accord. Alors, vous vouliez nous reparler des deux déballages mensuels sur Chartres, parce que vous y allez souvent, je crois qu'hein, vous oui. êtes une habituée. Alors, on a parlé tout à l'heure, effectivement, du marché des chineurs qui a lieu, lui, place des Éparres. Vous pouvez nous redonner la date hein. C'est le deuxième dimanche du mois.
C'est le deuxième dimanche du mois. Et donc, ce sont là des professionnels qui viennent et qui s'installent et qui viennent effectivement avec des belles choses. Alors, si on parle de la place des Éparres, c'est un petit peu le niveau au-dessus par rapport à la Chine qu'on peut faire place Billard. D'accord. Ce sont vraiment des professionnels qui viennent avec de la vaisselle ancienne, souvent d'après-guerre ou d'entre-deux-guerres, mais qui est en bon état.
Oui, vous m'avez dit aussi, vous avez trouvé parfois du beau linge ancien.
Oui, il y a d'ailleurs des spécialistes. C'est effectivement ce qu'on peut dire aussi, ce marché est un petit peu plus spécialisé.
Plus prestigieux.
Voilà, si on vend des beaux draps brodés, ou bien on vend...
De la belle cristallerie.
Voilà, de la cristallerie. Il y a effectivement en ce moment, par exemple, un marchand qui vient avec le fond d'une usine de cristallerie qui a fini.
D'accord.
Qui a terminé de produire. Et donc, il a de nombreux verres.
Donc, des bonnes affaires à faire en perspective.
Là, oui. Franchement, les verres coûtent entre 6 à 10 euros pièce. Et on peut vraiment se remonter un service.
Alors, ensuite, on avait vu que sur la place Billard, on a également une vraie brocante. Alors là, c'est le quatrième dimanche du mois. Alors là, vous m'aviez dit aussi beaucoup de beaux livres, des livres anciens.
Énormément de bouquinistes, oui.
Voilà, une belle qualité. Bien présenté aussi.
Oui. Ce sont vraiment. Ce ne sont pas comme dans les vide-greniers, des choses étalées par terre sur une bâche ou quelque chose comme ça. Il y a des chaises, des tables et puis quelquefois même des rayonnages puisqu'il y a énormément de livres.
Alors vous aviez trouvé, Bernadette, récemment de très belles boîtes à thé japonaises. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces boîtes à thé, de vos petites trouvailles ?
Alors, j'ai trouvé des boîtes à thé qui, effectivement, sont fabriquées au Japon parce qu'elles sont recouvertes de papier japonais, un papier très spécial, très spécifique. Et une boîte de thé vide, effectivement, ça n'intéresse qu'un collectionneur, mais on en trouve régulièrement. Il y a beaucoup de collectionneurs pour les boîtes, donc elles gardent un certain prix.
Alors, l'autre chose qu'on trouve aussi, qui sont un petit peu collector, ce sont les vinyles. Hein. On trouve beaucoup de vinyles.
Alors ça, on en trouve effectivement énormément. Alors, on avait perdu l'habitude d'écouter les vinyles. Quelquefois même chez soi, on n'a même plus le matériel pour les faire passer. Mmh. Or, il y a un renouveau du vinyle qui est très très important, avec énormément de collectionneurs. Des gens qui collectionnent les vinyles d'une époque précise ou d'une personne précise, mais il y a une demande importante. Alors, moi, je me demande toujours dans quel état ils doivent être, ces pauvres vinyles, quand ils restent toute la journée, soit en plein soleil, soit sous la pluie. Donc, je me demande s'ils sont vraiment très écoutables encore quand on rentre chez soi. Et c'est pour ça que je vous propose de les transformer en cache-pot, par exemple.
Oui, vous m'avez dit, on peut en faire plein de choses. On peut même les passer au four et les modeler pour faire des corbeilles à pain.
Oui, c'est ça, parce que quand on les passe au four un petit peu, ils deviennent tout mous. Tout souple, donc
ça
se gondole suivant nos souhaits, et finalement, oui, ça peut servir après de corbeille à pain ou de vide-poche.
Alors Bernadette, vous vouliez nous parler aussi de votre passion pour la vaisselle, et je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous parler du Gien, la faïencerie de Gien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, je dirais, de cette manufacture? Et puis du cours, un petit peu du Gien.
Alors, le Gien a très bonne presse en ce moment. Il y a un renouveau d'intérêt pour cette manufacture. Il y a quelque temps, ce n'était pas le cas. Mais je vois le commissaire priseur de la salle des ventes de Chartres, par exemple, quand les enchères ne montent pas, il bougonne en disant « Oh, je ferais mieux de vendre du Gien ». Parce qu'effectivement, le Gien coûte un petit peu cher.
Alors, il y a des motifs particulièrement qui plaît plus ou tout Gien est à la mode en ce moment ?
Je pense que tout Gien est à la mode, mais il y a les grands classiques de cette manufacture. C'est une manufacture qui a été fondée par Thomas Ulm en 1821. Thomas Ulm a abandonné la fabrique de Montereau. Il est venu s'installer à Gien dans un ancien couvent. Donc il avait beaucoup de bâtiments. Et puis il y avait à Gien les trois éléments essentiels qu'il faut réussir à réunir. Les canaux du fleuve, parce qu'une faïencerie, ça a besoin d'eau. La forêt d'Orléans pour le bois. Et puis les cailloux siliceux de la Loire, parce que si on veut faire de la terre de pipe, si on veut broyer ces pierres, parce qu'on n'a pas toujours le kaolin, et effectivement c'est le cas là, il faut avoir donc tous les éléments pour la faïencerie sur place. C'est une manufacture qui a eu énormément de succès aux expositions universelles. Parce que encore récemment, seules les faïences du XVIIIe siècle trouvaient grâce aux yeux des acheteurs. Et maintenant, que ce soit dans les salons, que ce soit dans les brocantes, on ressort les belles pièces de Gien qui ont un prix important.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, on voit le succès, moi, je vois, même chez les jeunes ménages, hein, en fait, pour la recherche de pièces, hein, de collection, puisqu'en fait, on peut acheter une bonbonnière, un pot, un plat.
Oui, c'est très la faïence a une certaine chaleur dans les objets de la maison. Alors, comme service, celui qui a peut-être le plus de succès en ce moment, s'appelle, moi, je l'appellerais le service au coq, parce qu'il y a une espèce de coq très roux avec des plumes qui est peint sur le corps de la pièce de vaisselle. En fait, il s'appelle le service au dauphin. Le service au dauphin parce que la prise, pour prendre par exemple le couvercle, représente un petit dauphin. Il y a aussi les cachemires de chez Gien. Des indiennes, oui, il y a des choses très, à la fois très classiques et qui bénéficie d'un renouveau.
Alors, aussi, également, un retour, alors là, qui est un petit peu différent. On va dire que c'est une autre époque qu'on va aborder. On va dire qu'en ce moment, on voit beaucoup chez les antiquaires le retour du formica.
Oui, c'est
des pièces qui sont devenues vintage. Alors finalement, le formica de nos grands-mères ne nous paraissait pas forcément d'une qualité extraordinaire. Alors bien sûr, c'est solide.
Oui, c'est solide. C'est solide parce que c'est fabriqué par la Formica Corporation, quand même, qui est basée à Cincinnati, dans l'Ohio. Et c'est un groupe qui est centenaire. Le formica a 100 ans maintenant. Alors effectivement, on n'aimait pas forcément ces placards ou ces tables, très faciles d'entretien cependant. Mais il faut se dire qu'en Bretagne, au début du siècle, il y a des gens qui se débarrassaient de leurs meubles de corps.
Les meubles en chaîne, bien
astiqués. Les meubles en chaîne, bien astiqués et parfois sculptés, pour mettre à la place du formica.
Une belle cuisine aménagée.
Aménagée en formica.
Alors, le formica des années 60 hein, est devenu vintage. On le voit de plus en plus dans les brocantes. Et il n'est pas donné. Hein. On trouve des pièces qui sont vendues assez chères. On trouve encore de belles chaises, des petites tables.
Oui.
Hein, qui sont en vente.
Alors, effectivement, les tables sont restées, elles, très, très strictes, très traditionnelles. Mais il y a les petites tables basses qui, parfois, sont triangulaires et qui sont très, très mignonnes et qui atteignent déjà des prix importants. Alors là, sur la place Billard, j'ai trouvé des petites chaises en formica bleu ciel ou beige. Et ma foi, elles étaient état-neuf. Ça valait 10 euros.
Donc ça, c'est intéressant.
C'est intéressant parce que pour une table basse triangulaire, vraiment des années 50, il faut compter entre 60 et 100 euros.
D'accord. Alors, vous m'avez dit aussi récemment, vous avez vu les petites horloges jazz aussi qui
oui,
sont...
Oui, parce qu'elles sont en formica également. Voilà. Ça va très bien avec. Donc, effectivement, on peut se dire qu'on va reconstruire une cuisine de ces années-là.
Alors, notre émission Jolie Trouvaille s'achève aujourd'hui, Bernadette. Nous nous retrouvons pour un prochain rendez-vous. À très vite.
Merci Anne-Sophie.